dans les chrétiens, mais à toutes les personnes qui lisent l'histoire littéralement.
Alors, quelle est la question, quel est le problème que ça pose, justement, pour mieux se rendre compte?
Quel est le problème que ça pose?
Ah oui. Je ne suis pas comme les Irlandais, mais c'est pour savoir.
Pour Shakya Rinpoche. Shakya Rinpoche, le maître tibétain dont je parlais tout à l'heure, il se demandait si c'était une histoire de zombies. Les Tibétains qui sont un peu sorciers ont des zombies. Vous connaissez les zombies? Vous ne connaissez pas les zombies?
On connaît à Haïti.
Vous savez ce qu'est un zombie?
Les zombies haïtiens.
C'est un... Oui.
Haïtien, ça,
voilà, des morts vivants.
Ressuscités.
Des?
Ressuscités.
Des ressuscités. Alors bon, là, c'est déjà une interprétation, mais si c'est Don Laurence qui... Peut-être. Mais si, être mort et après être mort, revenir à la vie. Donc, c'est bien ce dont il s'agit dans les deux cas. Et Don Chantal Limbache disait, nous, des zombies, on connaît, mais quoi, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Alors, peut-être il y a la réincarnation, il y a l'incarnation, il y a la naissance, la renaissance, renaissance, réincarnation et résurrection. Tout ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais prenons l'incarnation. Et dans une interprétation du Dharma, c'est-à-dire dans une interprétation phénoménologique, l'incarnation est l'incarnation dans la chair de l'expérience. C'est Merleau-Ponty qui disait ça. Donc, l'entrée dans la chair de l'expérience, l'incarnation. Et donc, en ce sens, l'incarnation est la contemplation. Après, la réincarnation, je suis bouddhiste, mais je suis le premier à dire la réincarnation, ça n'existe pas au sens où c'est habituellement conçu. Ce que le Bouddha enseigna est la renaissance. Et la renaissance signifie la continuité de la vie. Entendu que la vie n'est pas linéaire, n'est pas un parcours linéaire de l'alpha à l'oméga. L'histoire n'est pas linéaire, mais cyclique. Et donc, la vie est faite de naissance et de mort. La vie est une pulsation qui se décline de naissance en mort et de renaissance en remords. Comme la graine pousse, croît, fleurit, fructifie et meurt redevenant graine et repoussant. Donc, dans cette perspective, il est évident qu'il y a une vie après la mort. C'est tautologique. L'on hérite de ce que l'on a semé. L'on récolte ce que l'on a semé. c'est l'enseignement du Bouddha. La difficulté est sur le « on ». « On », on c'est qui ? Il n'y a pas d'âme. L'âme, comme la petite boîte noire, hein, l'entité indestructible, éternelle, personne ne l'a jamais trouvée et logiquement, c'est assez absurde. Alors, pour les bouddhistes, l'âme, c'est l'ego. Et donc, il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas une entité, petite boîte noire. Mais il y a une continuité. C'est très subtil. Et une façon très bien de le dire fut celle d'un sage indien qui dialoguait avec un roi grec, hellénistique, formé à la pensée grecque, et Ménandre. Et le sage bouddhiste dit à ce grand roi Ménandre, au roi, considérez ce qui se passe à la porte de votre palais lorsque vient la nuit. Le garde de la première veille vient avec son flambeau et monte la garde jusqu'à ce que vienne la relève et le garde du deuxième quart allume son flambeau à celui du premier quart et monte la veille pendant le deuxième quart. Ainsi en va-t-il du troisième et du quatrième, qui est l'aurore. Le veilleur de l'aurore d'allumer son flambeau au précédent et de monter la garde jusqu'au lever. Et alors, Nagasena lui dit, « Grand roi, toi qui es intelligent et avisé, que dirais-tu ? Le feu qui brûle dans le flambeau du garde du quatrième quart de l'aurore et le feu qui brûle dans le flambeau du garde du premier quart au couchant. Ces deux feux sont-ils les mêmes ou sont-ils différents ? Et Ménandre, qui n'était pas un sot, dit ni vraiment les mêmes, ni vraiment différents. Et Nagasena lui a dit, et bien de même, ô grand roi, ce qui continue de vie en vie n'est ni vraiment le même, ni vraiment différent. Voilà, c'est pour la réincarnation.
La question de
Laurence Freeman concernant la résurrection, vous pouvez la préciser ce que quel était le sens de votre question?
I didn't ask a question. What did you want me to do?
Non, mais
speak about.
La résurrection.
Oui.
What do you mean exactly?
What
is the meaning of your question?
I only mentioned this because I forget why I mentioned it now. I forget. The Dalai Lama asked this question, and I said,
"What did you answer at that time?"
Well, it's in the book.
C'est dans le livre que nous
le
avons écrit.
Dalai Lama parle de Jésus. Well, let me say this. I think, first of all, what it is not. I think we could say it is not rebirth.
Je vais commencer par dire ce que la résurrection n'est pas. Ça n'est pas la renaissance au sens étroit du terme.
It is, in terms of reincarnation.
En termes de réincarnation,
it is the end of the cycle of birth and rebirth.
Il s'agit de la fin du cycle des naissances et des renaissances.
Nirvana.
Yes. Yes, that would be the closest.
Ça, ça s'approche du concept nirvana. Yeah.
Then it is not the resuscitation of a dead body.
Ça n'est pas ressusciter un corps mort.
It should be a zombie.
Qui est un zombie.
Okay. Now, but we have to see how it is described in the scriptures.
On doit voir comment c'est décrit dans les évangiles.
And first of all, the stories agree on some points and disagree on others.
Et en premier lieu, les histoires qui s'accordent sur certains points et se désaccordent sur d'autres.
So, as modern rationalists, we compare these accounts.
Comme des êtres rationnels modernes, on a tendance à comparer ces deux versions.
And we say, what actually happened?
Et on se dit, qu'est-ce qui s'est vraiment passé?
But as we've already heard many times, this is a different kind of language.
Mais comme on l'a déjà entendu à plusieurs reprises, c'est un autre genre de langage.
There would be little significance in the language if there were not some experience behind it.
Il n'y aurait que peu de signification dans le langage s'il n'y avait pas une certaine expérience là derrière.
So what is the experience of the resurrection?
Donc quelle est l'expérience de la résurrection?
We don't see the resurrection as an event described.
On ne voit pas l'événement la résurrection comme un événement qui s'est décrit.
A flash of lightning and Jesus jumping up.
Comme un éclat de tonnerre.
Now, let me tell you briefly, the first encounter of Mary of Magdala with the risen Jesus.
La première, je vais vous parler de la première rencontre de Marie Magdalene avec Jésus ressuscité.
Mary of Magdala, who is a woman.
Marie est une femme.
And therefore, not a reliable witness.
Et donc, pas un témoin fiable.
So, why should women could not give evidence in a court of law.
Donc, à l'époque, les femmes ne pouvaient pas témoigner dans une cour de justice.
On the other hand, as one of my Greek teachers told me once.
Mais d'un autre côté, comme m'a dit un de mes professeurs de grec.
Why did Jesus first appear to women?
Pourquoi est-ce que Jésus s'est présenté la première fois à une femme?
Because he wanted the news to spread as quickly as possible.
Parce qu'il voulait que la nouvelle se répande aussi vite que possible.
So, Mary comes to the tomb early while it is still dark.
Donc, Marie, pendant qu'il fait encore nuit, très tôt le matin, s'approche du tombeau.
She sees that the stone has been rolled away.
Elle voit que la pierre qui était posée devant le tombeau avait été mise de côté.
We find that detail in all the stories.
Et ça, c'est un détail qu'on retrouve dans tous les récits.
She looks into the tomb.
Elle regarde à l'intérieur du tombeau.
She sees a young man dressed in white.
Elle voit un jeune homme vêtu de blanc.
And he says to her, "What are you looking for?"
Il lui dit, que cherches-tu?
She turns around.
Elle se retourne.
And she sees Jesus standing in the garden.
Elle voit Jésus debout dans le jardin.
But she doesn't recognize
mais
him.
Ne le reconnaît pas.
She's weeping.
Elle pleure.
And they, the angel says to her, "Why are you weeping?"
Et l'ange lui demande pourquoi elle pleure.
Beautiful question.
Belle question.
It's the question. From the Grail legend as well.
C'est une question de la légende du Graal également.
They ask the Fisher King.
Demande au roi pêcheur.
It's a question of compassion.
Question de compassion.
So she answers, "They have taken my Lord away."
Ils ont enlevé mon Seigneur, dit-elle.
And I do not know where they have put him.
Et je ne sais pas où ils l'ont posé.
So here is loss.
Donc il y a la perte.
Separation.
La séparation.
Death.
Et la mort.
Okay. Grief.
Le deuil.
Then she turned round and saw Jesus standing there.
Et ensuite, elle se retourne et elle voit Jésus debout.
But she did not recognize him.
Mais elle ne le reconnaît pas.
Jesus asks her, why are you weeping?
Et Jésus lui demande, pourquoi pleures-tu?
Who are you looking for?
Qui cherches-tu?
She thinks that he is the gardener.
Elle prend Jésus pour le jardinier.
And she says, if it is you, sir, who took his body away,
elle lui dit, si c'est toi, monsieur, qui lui a pris son corps,
tell me where you have put him,
dis-moi où tu l'as placé,
and I will take him away.
Et j'enlèverai.
She just wanted to complete the funeral procedures.
Elle voulait terminer les procédures funéraires.
Jesus says, Mary.
Et Jésus dit, Marie.
She turns and says to him, Rabboni, which means my teacher.
Elle se tourne vers lui et lui dit, Rabboni, qui veut dire mon maître.
And Jesus says, do not cling to me.
Et Jésus lui dit, ne t'accroche pas à moi.
Because I have not yet ascended to the Father.
Parce que je n'ai pas encore accompli mon ascension vers le Père.
So this is not a newspaper report.
Donc ce n'est pas un reportage journalistique.
This is a very condensed use of language.
C'est un usage très condensé du langage.
That expresses experience out of the ordinary.
Qui exprime une expérience qui est en dehors de l'ordinaire.
But a real experience.
Mais une vraie expérience.
So, what does the empty tomb symbolize?
Donc, que signifie le tombeau vide?
Her weeping.
Ses pleurs.
Emptiness.
Le vide.
She is in the depth of human suffering.
Elle est dans les tréfonds de la souffrance humaine.
She does not recognize Jesus.
Elle ne reconnaît pas Jésus.
And yet she is speaking to him and about him.
Même si elle parle à lui et de lui.
So she is still at a certain level of perception.
Elle est à un certain niveau de perception toujours.
And then he calls her by name.
Et puis il l'appelle par son nom.
She knows that she is known.
Elle sait qu'elle est connue.
And at that instant, she recognizes him.
Et à cet instant même, elle reconnaît Jésus.
Her ignorance, her misperception is cleared.
Son ignorance se dissout.
And but also at this moment, he says, do not cling to me, don't try to possess me.
Mais au même moment, il lui dit, n'essaie pas de me posséder, ne t'accroche pas à moi.
So, she can't cling to him either physically or conceptually.
Donc, elle ne peut pas s'accrocher avec lui, ni physiquement, ni conceptuellement.
This is not happening at this mental level.
Ce n'est pas à ce niveau mental que ça se passe.
And this indeed is... These elements are repeated in all the resurrection stories.
Ces événements sont répétés dans tous les récits de la résurrection.
And then he says to her, "Go to my brethren."
Et puis il lui dit, "Va voir mes frères."
And tell them that I am ascending to my Father and your Father.
Et dis-leur que je suis en train d'accomplir mon ascension vers leur père et mon père.
To my God and your God.
Vers mon Dieu et ton Dieu.
So again, quite deep significance here.
Donc, à nouveau une signification très profonde.
The same Father, the same God.
Le même Père, le même Dieu.
And a mission. She has a mission now.
Et maintenant, elle a une mission.
And in all the resurrection appearances, the disciples are empowered.
Et dans toutes les récits, les apparitions, les disciples reçoivent un pouvoir.
And they are given a mission.
Et à leur est donnée une mission.
Their life is energized.
Leur vie reçoit une nouvelle énergie.
And they have a purpose.
Et ils ont un but.
And they go back to live this life in a new way.
Et ils retournent à vivre cette vie d'une autre façon.
They're not asking, you know, what happened at the moment of the resurrection.
Ils n'ont pas demandé qu'est-ce qui s'est passé au moment de la résurrection.
And even when Jesus disappears from their sight,
et même quand Jésus disparaît de leur vue,
in what the we might call the subtle body,
dans ce que on pourrait appeler le corps subtil,
the form of the body that follows the material body,
la forme du corps qui suit le corps matériel,
but before it becomes the spiritual body,
avant qu'il ne devienne le corps spirituel,
which is the ascension,
qui est l'ascension.
So even when they lose sight of and the sense, some the sensory experience of Jesus
même
in this form,
même quand ils perdent de vue Jésus et l'expérience sensorielle de lui en cette forme,
they're not sad.
Ils ne sont pas tristes.
When somebody dies,
quand quelqu'un meurt,
we are sad.
On est triste.
If they suddenly come back to us, we feel very happy.
Et s'ils retournent à nous, on est heureux à nouveau.
It doesn't happen, but
ça n'arrive pas.
But we would imagine we would be very happy.
Mais on s'imagine qu'on serait très heureux.
And we would also imagine that if they disappeared again, we would be sad again.
Et on peut imaginer que s'ils disparaissaient à nouveau, on serait de nouveau triste.
But in clearly the disciples are not sad.
Mais très clairement, les disciples ne sont pas tristes.
We could say the relationship with Jesus has now been interiorized.
On peut dire que leur relation avec Jésus a maintenant été intériorisée.
He is with them.
Il est avec eux.
And they now live a new kind of life.
Ils vivent maintenant une nouvelle forme de vie, une nouvelle façon de vivre.
So I think this is actually how the resurrection is described in the scriptures.
Ça, c'est la façon dont est décrite la résurrection dans les évangiles.
It's not so much a metaphysical question.
Ce n'est pas tellement une question métaphysique.
As a question of lifestyle.
Mais une question de style de vie.
But I think it has many consequences.
Mais ça a plusieurs conséquences.
One of which is to be free from the fear of death.
Une de ses conséquences, c'est d'être libéré de la crainte de la mort.
This is very clearly the power of the early Christian communities.
Ça, c'est sans doute le pouvoir la puissance des premières communautés chrétiennes.
Even when they were being persecuted.
Même quand on les persécutait.
So, I think the resurrection has to be seen in terms of its experience and the way it sends us back to live this life in a new way.
Donc, je crois que la résurrection doit être vue en termes d'expérience et la manière par laquelle elle nous renvoie à cette vie présente pour être vécue de façon différente.
And everything that I have said has echoes and resonance, I think, with other traditions.
Tout ce que j'ai dit, je pense à des échos et des résonances également avec les autres traditions.
But there is something unique in this story.
Mais il y a quelque chose néanmoins d'unique dans cette histoire.
Don Laurence, en vous écoutant, est-ce qu'une reformulation synthétique de ce que vous venez de dire serait de dire que la résurrection, c'est ce que nous nommons l'éveil. C'est ce que des bouddhistes nomment l'éveil ou l'éveil. Et que c'est en mourant à soi-même que l'on est à Dieu.
Je pense que, si vous permettez, parce que ce qui est intéressant, c'est les échos qu'une démarche peut éveiller dans différentes traditions. Et c'est intéressant d'ailleurs d'entendre que la résurrection, c'est en quelque sorte
la résurrection de la nature spirituelle de Jésus dans le cœur de ceux qui sont ses disciples, et que dans ce sens-là, ça crée l'écho de l'éveil dans la tradition bouddhiste. Puisque finalement, ce dont on parle, en définitive, ce n'est pas d'une personne dans le sens physique du terme, mais c'est bien d'une lumière, d'un état. Et que la personne n'est que le symbole qui renvoie à un état de conscience. Et c'est dans ce sens-là où ça crée la résonance de la notion d'éveil. De la même manière que Bouddha pouvait dire, si dans votre méditation vous rencontrez le Bouddha, tuez-le. Puisque ce dont il s'agit, c'est pas de rencontrer une personne physique. Mais j'ai pas fini. Alors on fait un intermède et je reprends tout de suite. Alors.
En écoutant Fauzi parler de la personne, ça me rappelle cette histoire de Nasruddin. Je ne sais pas si elle est authentique, Fauzi vous dira. Mais qui revient du désert, où il était en retraite, extasié. Le désert, c'est merveilleux. Le désert, c'est merveilleux. Le désert, c'est merveilleux. Et Nasruddin, le désert, on y rencontre Dieu. Et voyant tout le monde perplexe, il dit, c'est sûr, il n'y a personne.
C'est amusant, l'histoire de Nasruddin, parce que je me souviens, je t'avais raconté cette histoire, mais alors ce n'est pas du tout Nasruddin, c'est quelqu'un que je connais très bien. Mais comme on le sait fort bien, Nasruddin se réincarne. C'est une de ses fonctions théologiques. Mais voilà, c'est-à-dire que, alors c'est les échos, on avait dit, parce que c'est cet écho-là, d'un seul coup, lorsque ça va se projeter dans la tradition bouddhiste, ça va se projeter dans le sens de l'état de conscience, de l'état de lumière, et non pas dans le sens de la forme personnifiée. Et d'un seul coup, quelque chose va pouvoir se communiquer. Parce que si c'est la forme personnifiée, ça ne signifie rien pour une tradition bouddhiste. En tout cas, il dit, si vous trouvez une forme, il faut la dépasser. Donc, il y a cela. Mais qu'est-ce que ça résonne dans le soufisme? Ça résonne... Hein, pardon? Alors, dans le soufisme, ça va encore résonner autre chose, sous une autre forme. C'est-à-dire que... Bon, j'ai parlé tout à l'heure de l'historicité, de la mort après la mort, la résurrection après la mort physique, et ainsi de suite. Sincèrement, je pense que ces choses-là sont un ordre de réalité qu'il faut tout à fait prendre au sérieux. Je dirais comme l'ordre de réalité dans lequel nous sommes, et à son existence, à son niveau, celui dans lequel nous sommes. Il y a des ordres comme ça de réalité jusqu'à l'ordre total et qui est au-delà de tout nom et de tout ordre. Mais la dimension aussi individuelle, personnelle,
a sa légitimité et son sens dans toute démarche religieuse. Simplement, elle n'est pas complète. Mais ce dont je veux parler, moi, c'est la résonance que cela fait par rapport à ce qui est dans le soufisme. Et dans le soufisme, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'évolution spirituelle, qui est celle que l'on réalise à travers un chemin et que l'on réalise à travers un certain nombre de colorations d'états spirituels, d'états de conscience. Mais ces états de conscience peuvent prendre des couleurs, des niveaux de compréhension qui sont évidemment différents. Ça aussi, on va évidemment le trouver dans toutes les traditions. Et ceci est exprimé dans le soufisme sous la forme aussi de prophétologie. C'est-à-dire que dans la mesure où nous sommes... Alors là aussi, il y a une expérience, si je peux dire, archétypale du prophète de l'islam qui va faire un voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem, et puis c'est le voyage horizontal, et puis un voyage ensuite vertical depuis Jérusalem jusqu'au 7e ciel, et dans chaque ciel il va rencontrer un prophète. Dans chaque ciel il va rencontrer un prophète. Et cette expérience-là est reprise dans le sens spirituel par les soufis eux-mêmes, par exemple Ibn Arabi et d'autres, qui vont parler d'abord de la réalisation horizontale, c'est-à-dire jusqu'à parvenir à cette nature primordiale, humaine, qui est celle avec laquelle nous naissons dans notre conception, si je peux dire, la plus proche de notre nature spirituelle. Comme les enfants, lorsqu'ils naissent, ils naissent avec une espèce de spontanéité, avec une espèce d'unité, qui n'est pas la réalisation spirituelle, mais qui est une forme d'unité psycho-spirituelle qu'on appelle la fitra, qu'on appelle la religion naturelle. Et puis ensuite, à partir de cette réalisation-là, eh bien, il y a une réalisation ascendante, et dans chaque ciel, on va réaliser l'état spirituel d'un prophète particulier. Alors, il y a, on va dire qu'on va éveiller, par exemple, l'Abraham de ton être, le Moïse de ton être, le Jésus de ton être, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, et là, nous allons avoir, là aussi, évidemment, ce sont des formes où ressuscite sur le plan spirituel, des prophètes, qui ont chacun enseigné quelque chose d'universel, évidemment, puisqu'ils enseignent l'accès à l'universel, mais en même temps avec un chemin et une singularité qui leur est propre. La forme de spiritualité qui est celle de Moïse n'est pas la forme de spiritualité qui est celle de Jésus, n'est pas la seule forme de spiritualité qui est celle d'Abraham. Et Ibn Arabi va appeler cela les gemmes de la sagesse. Qu'est-ce que c'est que les gemmes? C'est un petit peu la forme géométrique des bagues. C'est-à-dire, il y en a qui sont triangulaires, d'autres qui sont carrés, d'autres qui sont hexagonales. Et le diamant est le même, et simplement, il va épouser cette forme géométrique. La forme géométrique, c'est la tradition dans laquelle va se transmettre un enseignement. Alors, mais le diamant est le même. La réalité du diamant est le même. Simplement, la forme qu'il va prendre va être différente selon une coloration ou une autre, selon une expression prophétique ou une autre. Et là, il y a des niveaux si je peux dire, de résurrection. On fait renaître en nous chaque message, chaque état de conscience, chaque forme de connaissance divine. Chaque expression, par exemple, où il y a des traditions, par exemple, comme celle supposant le Salomon de notre être, ce sera plus lié peut-être à la notion de notre intelligence, de notre expérience. Le Jésus de notre être, ce sera probablement très lié à la région du cœur. Le Moïse de notre être, ce sera probablement très lié à la notion de la loi, et ainsi de suite.
Mais tout ça, autant avec, avec le si vous voulez, il n'y a pas là de hiérarchie à établir de préférence ou quoi que ce soit. Il y a des formes d'expression qui sont différentes et qui s'éveillent au fur et à mesure qu'il y a ce voyage spirituel qui s'établit. Voilà. Et là, si vous voulez, il n'y a rien à faire. Tout en disant cela, sur un plan théologique, et c'est ça qui va constituer l'identité de chaque religion, chacun va apporter une connotation qui lui est propre. N'est-ce pas? L'islam, comme il se présente comme une synthèse des religions qui l'ont précédé. N'est-ce pas? Puisque dans le Coran, il n'est question que de tous les autres prophètes. Comme il se présente, donc il est normal que l'on retrouve dans l'expérience spirituelle cette expérience qui se manifeste sous l'aspect de cette notion de multiplicité prophétologique, de multiplicité des états ou des expressions de la connaissance spirituelle qui est propre à chacun de ces prophètes et des prophètes de l'humanité qui sont passés. Le fait que le christianisme forcément va avoir une relation unique et privilégiée avec le Christ, sinon il ne s'appellerait pas christianisme, n'est-ce pas? Eh bien, va faire que forcément, cette présentation va être faite que cette expérience, elle va ressembler à tout ce qu'on vient de dire, mais elle garde un caractère d'unicité. D'unicité. Elle va faire écho avec tout ce qu'on vient de dire, mais cependant, elle va garder son caractère propre d'unicité. Autrement, je pense que tout simplement, le christianisme n'existerait plus. N'est-ce pas? Ceci dit, il y a parfois des correspondances étonnantes. Je dois dire simplement que, en dehors même de toute interprétation spirituelle ou symbolique, je dois dire que ce qui est très souvent méconnu, j'ai parlé du rôle de Jésus, de Marie, des autres prophètes aussi, dans le Coran par exemple,